la rubrique culturelle L'air de rien, présentée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, bonjour à tous. Un air de rien musical aujourd'hui et je vous invite à vous rendre au lycée Saint-Vincent-de-Paul le vendredi 18 octobre à 18h30 pour assister à un concert, conférence, lecture. Et j'ai devant moi deux des participants. Bonjour.
Bonjour.
Henri Gourdin, biographe donc de Pablo Casals. Vous avez édité aux éditions de Paris Max Chalel sa biographie en 2013. Et Dominique Gel, rebonjour, professeur de violoncelle donc au Conservatoire de Nîmes. Alors, comment est née cette idée de faire une conférence, lecture, concert, voilà.
Alors, en deux mots, mon attachement à Pablo Casals ne s'est pas arrêté à la sortie de sa biographie. C'est un homme auquel je suis attaché à vie, on va dire. Et donc, pour faire vivre sa mémoire, après la sortie de la biographie, j'ai mis au point ce que j'appelle un concert lecture où je viens parler de Casals et accompagné, dans tous les sens du terme, d'un violoncelliste. Après, je prends un violoncelliste qui ne soit pas trop loin du lieu où je parle, qui joue des morceaux sur un petit programme qu'on a mis au point tous les deux, qui joue des morceaux en rapport avec mon discours sur Pablo Casals. Donc c'est l'association Parole-Musique.
Alors là, vous avez choisi Dominique Gel, donc à Nîmes. Est-ce que vous êtes un spécialiste de Pablo Casals ?
Pas vraiment un spécialiste, mais tout violoncelliste connaît Pablo Casals. Nous sommes tous tributaires de son héritage musical, instrumental. Et donc, voilà, il est important pour nous tous de nous intéresser à la personnalité de Pablo Casals, qui est un petit peu, peut-être un peu négligé à l'heure actuelle.
Mais vous, dans votre apprentissage, il a eu une importance particulière.
Plutôt au travers des professeurs que j'ai eus, pas vraiment directement.
Donc là, cette conférence-concert à Saint-Vincent-de-Paul, pour vous, c'est une occasion, en fait, de le redécouvrir, mais aussi de le faire partager. C'est ça, votre but, à tous les deux.
Oui, tout à fait, là, on se retrouve tout à fait.
Oui, oui. Bon. Et une redécouverte vraiment pour moi aussi.
Alors, nous attendrons le générique de fin pour mettre le chant des oiseaux qui nous expliquerait pourquoi c'est particulièrement, reconnaissable ou, représentatif de Pablo Casals. Mais nous en parlerons en temps et en heure. Et dans une émission musicale, on fait déjà une première pause musicale et vous avez choisi l'allemande de la 5e suite. Alors, pourquoi ?
Eh bien, donc Casals a été un grand redécouvreur des suites de Bach, qui étaient à son époque considérés comme des exercices. Ça paraît étrange maintenant, mais ouais. Les éditions du 19e intitulent ça comme étude. Mmh. Donc effectivement, Casals a été le premier musicien à s'y intéresser et à les remettre au programme lors de concerts, ce qui ne se faisait absolument plus. Donc, alors évidemment, Casals est un homme qui a appris le violoncelle au cours du 19e siècle. Pour son apprentissage, c'est un homme du 19e, bien qu'il ait plus vécu au 20e. Et donc son style de jeu dans Bach ne correspond plus du tout maintenant à ce qui a été redécouvert par la suite dans les années 50 par les musiciens comme Herbie Schma, par exemple.
Mais donc là, nous allons l'écouter par Pablo Casals.
Par Pablo Casals, parce que malgré tout, c'était quand même un très grand intuitif et l'interprétation des danses, en tout cas, reste... disons que les danses ne sont pas datées, ça reste quelque chose d'assez qui nous parle encore à l'heure actuelle.
Thank you.
Alors après ce premier extrait, Dominique Gell, je rebondis sur l'idée qu'il jouait comme un homme du 19e siècle. Et lors de ce concert, vous allez jouer aussi avec des élèves. Donc là, il y a le... pas le conflit de génération, mais comment réagit de jeunes élèves de violoncelle par rapport à l'interprétation de Casals?
En fait, pour Bach, mes élèves ont également joué du Bach, moi aussi, à ce concert. Surtout, entre-temps, il y a eu la redécouverte des traditions du 18e siècle par des musiciens qui se sont mis d'abord à récupérer des traités d'époque, à travailler là-dessus, puis ensuite à utiliser des instruments d'époque avec cordes en boyau, etc. Donc, à partir du moment où ce travail a été effectué, il est très difficile pour des musiciens de l'époque actuelle de l'ignorer. Donc, effectivement, nous travaillons également maintenant sur les traités du 18e, les traditions de jeu du 18e, et Casals représente plutôt une tradition de jeu du 19e. Donc la différence est assez facile à établir. Au 18e siècle, la musique parle. Elle parle vraiment, c'est-à-dire c'est une musique rhétorique. Au 19e siècle, la musique chante. Et donc évidemment, si on veut faire chanter Bach, ça reste relativement possible, mais on passe peut-être à côté du phénomène rhétorique.
Alors vous, Henri Gourdin, vous n'êtes pas musicien, vous êtes mélomane.
Mélomane, oui, tout à fait.
Comment on travaille avec un violoncelliste qui est aussi compositeur pour faire une conférence-lecture qui soit accessible? Vous attendez des spécialistes, des élèves, des... tout public, comment vous adaptez?
Je vous dis déjà, je fais une petite parenthèse pour vous dire que je me suis permis de m'occuper de la biographie de Casals parce que, bon, comme on dit, il passe pour être le premier violoncelliste du 20e siècle, le plus important, à tort ou à raison, enfin, voilà, c'est la réputation qu'il a gagnée. Mais aussi parce que il y a toute une dimension de ce personnage qui est son opposition à Franco d'abord et puis aux dictatures du XXe siècle en général. Et il a une attitude absolument unique de ce point de vue.
Un homme engagé, un musicien engagé.
Engagé jusqu'au bout d'une manière intransigeante. Le titre de ma biographie, Pablo Casals, ouais. L'indomptable. Voilà.
Vous nous rappelez un peu sa vie en deux minutes. Il est né où? Il est mort où?
Casals était, pour le qualifier, il faut commencer par dire qu'il était catalan. Il était un peu espagnol, mais il était surtout catalan. Quand on lui posait la question, c'est la Catalogne. C'est, bon. Ouais. Né en 1876, donc, comme Dominique le disait tout à l'heure, c'est un homme du XXe siècle. Il était dans ses 20 ans quand il a abordé le siècle est né. Et il est mort en 1873. Donc il a parcouru, on peut dire qu'il a parcouru tout le 20e siècle.
Oui, il est passé, effectivement. Il est passé pour nous, la Troisième République. Il a vécu la guerre de 14-18, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre d'Espagne entre-temps. Il est passé de l'époque où on roulait dans des trains à vapeur et encore avec des voitures à chevaux jusqu'à l'ère atomique, quand même. C'est un personnage qui a traversé une très, très grande époque de bouleversement, de très grand bouleversement.
Et vous pensez que dans sa musique, ça se sent? C'est-à-dire il a vraiment... traverser ce siècle en multipliant ses émotions ou ses interrogations. Le 20e siècle est un siècle très difficile, dites-vous. Donc est-ce que vous pensez que ça, vous qui êtes compositeur, est-ce que vous pensez que lui, dans sa façon de jouer, ça a influé?
Ça, je pense vraiment pas. Je pense que c'est vraiment deux choses qui sont à mettre séparément. Son jeu évolue au fil du temps, comme le jeu de n'importe quel interprète, en fin de compte. Mais je ne pense pas que l'influence des événements soit perceptible dans l'évolution de son jeu.
On dit qu'il est le premier violoncelliste du XXe siècle, c'est surtout parce qu'il a ouvert une nouvelle voie à l'interprétation au violoncelle.
Mais c'est vrai que le violoncelle avait plus, c'était plus un instrument d'orchestre.
Non, pas nécessairement.
Pas nécessairement, c'est pas Casals qui l'a vraiment mis au premier plan.
Casals, en tout cas, le met au premier plan, oui, parce qu'il est très talentueux. Il y avait quand même des grands violoncellistes avant. Mais surtout, Casals révolutionne aussi la technique de l'instrument.
Oui, une anecdote, c'est que lui-même, quand il était élève à l'école de musique de Barcelone, il était encore dans la méthode ancienne avec son professeur Garcia, qui obligeait les élèves à caler un livre sous chaque coude pour jouer.
Oui, oui, pour ne pas prendre d'ampleur.
Voilà, voilà. C'est ça. Alors c'est lui, vraiment, Casals, qui a révolutionné. Mais alors, pour achever de répondre à votre question, à partir du moment où il a pris ce cap, il y est resté toute sa vie. Donc on ne peut pas dire que je suis d'accord avec Dominique. On ne peut pas dire que l'histoire a vraiment eu de l'influence sur son jeu.
Vous pourriez jouer, vous, avec un livre sous chaque bras
Dominique. Sous le bras droit, oui, presque. Sous le bras gauche, non.
Alors, cet instrument, vous êtes violoncelliste. Vous avez hésité entre plusieurs instruments? Pour vous, c'était une évidence?
Ah non, pas du tout. J'étais destiné au départ. Enfin, moi, je me destinais à être violoniste au départ.
Ah, d'accord. Et alors,
c'est un choix parental, on va dire. Et un peu le hasard aussi.
Que vous ne regrettez pas?
Non.
Non. Qu'est-ce que vous donne le violoncelle?
Ah, alors pour ce qui me concerne, le violoncelle me donne à peu près la même chose que m'auraient donné d'autres instruments. Donc moi, j'étais plutôt attaché aux instruments à cordes. Mais après, le choix, à la limite, moi, mes préoccupations étaient plus musicales qu'instrumentales. Donc effectivement, j'aurais sans doute eu une évolution un peu différente avec un autre instrument, mais pas si différente.
Oui, mais en tant que professeur, vous êtes professeur au conservatoire, qu'est-ce que vous aimez donner dans votre enseignement qui est spécifique au violoncelle? Si vous vous sentez plus instrumentiste que violoncelliste, les jeunes que vous formez...
Je me sens plus musicien que violoncelliste.
C'est une belle intervention, merci. Musicien. Alors le musicien, en accord avec Henri qui est mélomane, vous avez choisi un deuxième extrait. Je vous demande de le présenter.
Il s'agit de Kol Nidrei, l'opus 47 de Max Bruch. Max Bruch, c'est un compositeur allemand contemporain de Brahms. Et donc le Kol Nidrei, c'est une prière juive.
Et c'est... Pourquoi ce choix?
Oh, je pense que c'est très représentatif du potentiel expressif de Pablo Casals.
Oui, Pablo Casals le jouait très fréquemment et l'a enregistré. Il a très peu enregistré dans sa carrière, mais le Kol Nidrei et les suites de Bach, oui.
Alors sur Radio Alliance Plus, nous avons la joie de parler musique dans cette terre de rien pour annoncer le concert-conférence-lecture au lycée Saint-Vincent de Paul le vendredi 18 octobre à 18h30. Nous avons donc Henri Gourdin, le biographe de Pablo Casals, voilà. Et Dominique Gell, Musicien, voilà, hein. Violoncelliste.
Merci.
Musicien. Alors, ce musicien, ça veut dire aussi tout musicien n'est pas compositeur ? Ou dès qu'on est musicien, on est compositeur ?
Non, non, tout musicien n'est pas compositeur. On peut s'attacher beaucoup plus au phénomène instrumental.
Mmh.
Et puis à l'interprétation, aller loin dans le domaine de l'interprétation sans avoir forcément besoin de s'attaquer à la création.
Et pour vous, c'est un besoin ?
Ah, ça a été avant de jouer, même.
Ah, d'accord.
Moi, je suis plutôt au départ quelqu'un qui voulait être compositeur
mmh.
et qui est devenu ensuite instrumentiste, interprète et professeur.
Plusieurs casquettes, mais qui vous sied à merveille, qui sont complémentaires.
Oui, qui sont complémentaires. Oui, la pédagogie fait partie de l'interprétation. Le chef d'orchestre a un rapport de pédagogie avec l'orchestre. La compréhension de l'écriture permet aussi de donner d'autres dimensions à l'interprétation et aussi à l'enseignement. Donc tout ça, c'est très imbriqué, oui.
Et alors là, contrairement à Casals, qui lui était vraiment interprète depuis son plus jeune âge, et non seulement interprète, mais interprète au violoncelle, il a eu un coup de foudre pour le violoncelle qui est le fil conducteur de sa vie finalement. Mmh. Il a composé un peu au cours de son exil à Prades, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, mais il a un peu composé. Mais d'ailleurs, j'ai dans ma biographie, comme c'était la première et toujours la seule biographie, j'étais obligé de donner un peu de documentation en annexe sur ses enregistrements, ses compositions, etc. Et donc, il y a une liste de compositions par Casals, mais qui est tout de même très secondaire, on va dire, ça passe au second plan par rapport à son travail d'interprète.
Alors, vous, biographe, vous n'avez pas fait que la biographie de Pablo Casals. Cette biographie de Pablo Casals, quelle est, si vous voulez, sa différence par rapport à des écrivains ou par rapport à d'autres personnes ? Quand on fait la biographie d'un musicien, il y a quelque chose de particulier ?
Ah oui, tout à fait. J'avais fait déjà la biographie de Delacroix, donc, qui est un peintre, la biographie de Pouchkine, qui est un poète. Donc, ce sont des artistes.
Il y a le point commun,
en fait. Ils sont dans la famille des artistes. Oui, mais il y a tout de même, quand on est dans la musique, il y a tout de même un lyrisme qu'on retrouve peut-être dans la poésie de Pouchkine, mais qui est plus directement perceptible en musique que dans une autre forme d'expression.
Et vous, en tant que musicien, la biographie d'Henri Gourdin, elle vous a appris des choses ou c'est un regard différent ?
Ah non, ça m'a appris des choses. Oui. Notamment l'existence de Guillermina sans son épouse.
C'est vrai qu'on ne parle pas d'elle.
Dont on ne parlait jamais, oui.
En deux mots, dans le courant de mes recherches, c'est autour de Casals, parce que je suis de ce genre de biographe qui cherche l'investigation. Donc j'ai découvert que Casals avait vécu pendant 10 ans, dans sa jeunesse parisienne, avec une violoncelliste portugaise qui ensuite est devenue la première femme violoncelliste de l'histoire. Enfin, la première à jouer le grand répertoire avec de grands orchestres, etc.
Mais ce n'était pas un instrument pour une femme. Hein. On trouvait ça excessivement vulgaire.
Hein. Vulgaire, voilà. Un instrument entre les jambes, ça ne faisait pas. Et donc, c'est vraiment le grand amour de sa vie. Et complètement occulté je ne vais pas dire le biographe parce qu'il n'y en a pratiquement pas, mais par tout premier biographe américain de Casals, par la tradition autour de Casals, Suggia n'existe pas. Donc bon, quand je l'ai découverte, j'en parle bien sûr dans ma biographie de Casals, mais ensuite j'ai remis le couvert et j'ai publié toujours aux éditions de Paris Max Chalet la biographie de Suggia. Voilà.
Et vous, en tant que professeur, quand vous avez des élèves femmes ou garçons, est-ce qu'il y a une différence ?
Non.
Non ?
Non, aucune différence.
Donc tous ces hommes qui ont interdit à ces femmes de faire de violoncelle avaient totalement tort.
On peut le dire. Il y a beaucoup de femmes qui ont fait carrière depuis.
Oui, ouais. Oui, mais depuis, ouais. Je veux dire, c'était...
Depuis, ouais.
Et ces femmes qui aiment le violoncelle, qu'est-ce qu'elles... Enfin, c'est peut-être difficile à vous de le dire, mais qu'est-ce qu'elle trouve de particulier dans cet instrument ?
Alors ça, c'est effectivement difficile. Je pense que la même chose que les hommes.
Hein.
Oui. Oui, je pense qu'il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de différence. C'est le talent musical s'exprime, qu'il soit masculin ou féminin.
Oui. Et que la façon, je ne sais pas, d'aborder... Enfin, pour vous, c'est pareil, je veux dire. C'est, oui, que ce soit homme ou femme, c'est pareil.
Les contraintes sont peut-être un peu différentes parce qu'il faut le poser sur la poitrine et qu'il faut faire attention à préserver la santé, mais c'est tout.
Oui.
Pour le reste, oui, la façon d'appréhender l'instrument va être similaire. Le son de l'instrument elle-même et son fonctionnement est le même pour tout le monde.
Alors, lors d'une conférence concert-lecture, vous en avez déjà fait plusieurs dans la région, donc vous avez l'habitude.
Mais dans le Gard, on l'a fait à Nîmes deux fois, à Corconac, une petite chapelle romane de l'Estréchure, là au fond de Cévennes. On l'a fait à Corbès, enfin on a dû le faire six ou sept fois.
Oui. Bon, alors ma question, je la renouvelle tout de même si vous vous connaissez bien. Qu'est-ce que vous attendez d'un tel spectacle, d'une telle soirée. Parce que vous les avez déjà faites. Donc, qu'est-ce que vous en avez retiré?
Je vois qu'au niveau du public, c'est un enchantement à chaque fois. Quoi. Il y a la découverte du violoncelle, la découverte d'une personnalité et la conjonction des deux. Ça marche, bon, c'est peut-être le miracle.
Ça fonctionne bien, c'est presque un peu de l'improvisation quand on est sur place.
Oui.
C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on va faire, mais on ne sait pas exactement quand. Enfin, ouais.
Donc c'est un vrai plaisir, oui. c'est une écoute. Et donc, je l'avais dit un peu tôt dans l'émission, un générique en musique, Le Chant des Oiseaux.
Alors Le Chant des Oiseaux, à l'origine, c'est une sardane, c'est un traditionnel catalan, une pièce traditionnelle, que Casals a transcrite pour violoncelle, et par la suite énormément joué, alors dans des conditions qu'on arrive à vous décrire.
Oui, c'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, Casals est connu aussi pour son opposition à Franco. Quand Franco a pris le pouvoir en Catalogne, il a été obligé de s'exiler. Franco avait annoncé que s'il prenait Casals, il lui coupait les bras au niveau des coudes. Oui, il avait bien compris, qu'il n'était pas stupide, que l'arme de Casals, c'était son instrument.
Il faut tenir les livres sous le coude.
Et donc, il est resté dans cette opposition toute sa vie. Et après la guerre 40-45, quand il est revenu sur scène, il avait composé entre-temps le chant des oiseaux. Et il l'a utilisé comme... Il l'appelait lui-même, il disait, c'est mon chant de paix contre la guerre. Voilà, donc c'était un peu son slogan, et c'est inséparable.
Oui, inséparable. Son chant de résistance, moi j'avais envie de dire aussi. Oui, parce que résister à la guerre, c'est...
Alors il y a une très belle interprétation de ça, je crois, à l'UNESCO, qui est peut-être très bien la dernière fois de sa vie où il l'a joué. Mmh. Et c'est une émotion absolument extraordinaire.
Mais merci à vous deux de nous transmettre cette émotion sans cesse renouvelée, puisque vous vous connaissez depuis longtemps et vous aimez partager ces moments avec le public.
Certainement.
Merci à vous.